Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Pascal Masiri Kabissima.
Les titres de l'actualité sur Radio Okapi ce soir, fin de la mission pastorale du pape François en RDC. Avant de quitter Kinshasa ce vendredi matin pour Djouba au Soudan du Sud, le souverain pontife a invité les évêques membres de la CENCO à faire entendre leur voix prophétique pour éveiller les consciences de la communauté chrétienne. Plus de 20 déplacés qui ont fui récemment les atrocités dans les territoires de Kwamuto, Maïndombe, sont morts à Bandunduville où ils avaient été accueillis au mois d'août dernier. C'est suite notamment au manque de soins médicaux et de la sous-alimentation. Notre invité, c'est l'aumônier de jeunes de l'Église catholique. Après la rencontre avec le pape François, père Jean-Marie Roubacaré appelle le jeune à rejeter les antivaleurs. Madame, Messieurs, bonsoir. Le pape François a quitté Kinshasa ce vendredi matin pour Djouba au Soudan du Sud au terme d'une mission pastorale de 4 jours en RDC. Pendant son séjour, le Saint-Père a échangé notamment avec le président Félix Tshisekedi, les clergés, les jeunes et dit la messe à l'aéroport de Ndolo. Ce vendredi matin, le souverain pontife a invité les évêques membres de la CENCO à faire entendre leur voix prophétique pour éveiller les consciences. Mais il ajoute qu'il ne s'agit pas d'une action politique. Il a insisté sur le fait qu'ils sont des pasteurs serviteurs du peuple, pas des hommes d'affaires. Le souverain pontife a indiqué qu'en tant que pasteur d'église, les évêques, membres de la CENCO, ont besoin de respirer l'air pur de l'église, de l'évangile, chasser l'air pollué de la mondanité et de garder le cœur juvénile de la foi dans l'église catholique. Les délégués des prêtres, des consacrés, des diacres et des séminaristes ont plaidé hier jeudi après-midi pour l'implication du pape François en vue de la restauration de la paix en RDC. Ce plaidoyer a été fait lors de leur rencontre avec le pape François à la cathédrale Notre-Dame du Congo ici à Kinshasa. En leur nom, l'abbé Léonard Saint-Eddy a affirmé que ce dernier s'engage à protéger les valeurs de l'éducation, de la protection de l'environnement et de la famille. Explication de Billy Van Lutumba.
Les prêtres et consacrés s'engagent aussi à œuvrer pour la reconstruction d'un Congo nouveau de justice et de paix. Ils saluent l'arrivée du pape sur la terre d'un peuple oublié de la scène internationale et plaident pour qu'il soit le porte-parole sur la scène internationale de l'intérêt du peuple congolais. Prenant la parole à son tour, le pape a appelé les prêtres, les consacrés et les séminaristes à combattre la médiocrité spirituelle, le confort mondain et la superficialité. Il les appelle à être des modèles de sobriété et de la liberté intérieure à travailler aux côtés des pauvres. Le pape François a aussi rappelé aux prêtres et consacrés que les vices que l'on combat chez les autres ne peuvent pas se retrouver enracinés dans leurs communautés respectives. Il leur rappelle que le peuple a besoin des prêtres et consacrés bien formés, passionnés de l'évangile. La formation du religieux n'est pas une option, mais un chemin à suivre toute la vie, a-t-il rappelé. Pour être des bons prêtres, c'est avant tout la vie qui parle. Les paroles ne suffisent pas, le ministère auquel vous êtes appelé est celui d'offrir la proximité et la consolation, a rappelé le pape François. Il les invite ainsi à être témoins de la fraternité, de paix et de combattre la division et le tribalisme.
Merci Billy Van Lutumba pour ces précisions. Notez que la visite du pape François à Kinshasa a permis aux jeunes de faire du business. Tenez, ces jeunes ont imprimé à l'occasion des calendriers, des drapelets avec l'effigie du pape François qu'ils ont par la suite vendu aux personnes qui venaient participer aux différentes rencontres avec le Saint-Père. Un reportage de Paul Matendo.
Uta papa yaka na aéroport en Djili, tile auto teka kana koteka. Mbongo tozo sala makasi papa.
Depuis l'arrivée du pape François à l'aéroport international de Djili, nous ne faisons que vendre et nous réalisons des bénéfices, déclare ce jeune qui fait la vente à la sauvette des képis et drapelés à l'effigie du pape François. Un képi en carton revient à 1000 francs congolais, ajoute un autre.
Na minute auto teka baba ti baba mi.
Un képi ou un drapelé revient à 1000 francs congolais. Déjà autour de 10 heures, j'étais un montant de 100 000 francs congolais.
Un autre petit vendeur explique combien a-t-il investi dans ses business.
Si j'investis
50 000 francs congolais, il m'arrive de gagner 200 000 ou 150 000. Et si je fais le total avec ce que je donne à mes amis revendeurs, je suis à 650 000 francs congolais par jour.
650 000.
Tous ces jeunes ont souhaité que le Saint-Père prolonge son séjour à Kinshasa pour faire autant de bénéfices.
Autre nouvelle en plus bref au Nord Kivu, calme et précaire ce vendredi sur les lignes de front dans les territoires de Massissi au lendemain des affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23 autour de Kirolirwe dans le groupement de Bachalika-Mbe. Les villages de Kirolirwe, 22 km au nord de Sake, Nyamitaba, Rouche-Béché sont passés sous occupation des rebelles du M23. Des sources concordantes indiquent que la prise de Kirolirwe accroît davantage la menace sur la cité de Sake, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Goma. La panique et la psychose a gagné. Du coup, les habitants de Sake, de Mushaki et des villages environnants qui ont fui. L'occupation de ces nouvelles entités aussi importantes s'ajoute à d'autres déjà occupées par le M23 dans les territoires de Massissi, en l'occurrence la cité de Kichanga. Des sources locales affirment que ces rebelles du M23 cibleraient les villages sur l'axe de Mushaki pour couper la ville de Goma du reste de la province par Sake. Nord Kivu encore, 8 explosifs ont été découverts hier jeudi après-midi par des habitants de Bouamba dans le groupement de Binza, territoire de Rutshuru. Certains engins étaient enfouis non loin de l'église catholique de Kanzanza et d'autres dans le groupement de Rugari. Et ces habitants redoutent qu'il s'agisse des bombes qui ont été piégées par les rebelles du M23. Un notable du coin appelle à l'intervention urgente des organisation des déminages. Et même Moussa Mukanda s'est confié à Radio Kapi.
Dans les endroits contrôlés par les rebelles terroristes du M23, plusieurs bombes sont visibles, dont 3 à Bouramba. Cette position avait été occupée par les rebelles du M23 et ils ont abandonné ces bombes-là lorsqu'ils ont quitté cette zone. Nous signalons aussi au gouvernement que d'autres bombes ont été visibles à Rugari. Une bombe est piégée aussi à Kisharo. Et d'autres effets de guerre sont abandonnés par le M23 partout où ils contrôlent. Nous rappelons les organisations qui travaillent d'aller déminer les bombes, qu'il est gratuit de voir comment venir de piéger ces bombes qui sont à Bouramba, puisque la zone de Bouramba est contrôlée par des Mai Mai. Là-bas, il n'y a pas de M23. Ils ont quitté là, ils sont à 5 km à Kisharo. Pour dire, les AC qui collaborent avec les M23 peuvent nous aider à aller dépiéger ces bombes, vu que la MONUSCO a quitté la zone et ces bombes représentent un danger pour notre population. Des chèvres même peuvent dépiéger cette bombe et causer des dégâts énormes pour la population de Kanzanza, Bouramba.
Autre nouvelle sur Radio Kapi, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est se retrouveront demain samedi à Bujumbura sur invitation de leur homologue burundais Evariste Ndayishimiye, qui est en même temps le président en exercice de l'EAC. La tenue de ce sommet de Bujumbura est confirmée par la porte-parole du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Tina Salama, interrogée par Radio Kapi aujourd'hui, a confirmé la tenue de ce sommet et a affirmé qu'il s'agit d'une réunion d'évaluation du processus de Luanda. Elle a été jointe par Martin Sebujangwe.
Le président Félix Tshisekedi va prendre part au sommet de Bujumbura avec ses homologues de la East African Community pour bien évidemment parler de la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays et bien évidemment des tensions qui persistent entre Kigali et Kinshasa. C'est en fait une réunion, on va dire, d'évaluation après le constat du refus du M23 RDF de se retirer complètement des zones occupées et de déposer les armes. La feuille de route de Luanda est claire à ce sujet. Il avait été donné au M23 jusqu'au 15 janvier 2023 pour se retirer complètement des zones occupées, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'a pas été fait. Ils n'ont pas obtempéré, ils ont même repris des offensives militaires avec les soldats rwandais. La prochaine étape était de réunir les chefs d'État dans un sommet pour bien évidemment constater et passer à l'étape suivante, si je peux me répéter, qui est donc de donner des directives claires à la force régionale qui est déjà déployée pour qu'elle puisse entrer en action. Donc, c'est-à-dire qu'elle puisse être plus offensive et c'est vraiment ce que souhaite et demande le président de la République.
Et puis, le secrétaire général de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est demande à la RDC des explications claires et urgentes sur le renvoi d'officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma au Nord Kivu. Dans un communiqué du mercredi dernier rendu public jeudi soir, un communiqué adressé au ministre congolais des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'EAC rappelle à la RDC que la décision de déployer les soldats était une décision des chef d'État et que le ministre n'a pas compétence de modifier cette décision dont le président Félix Tshisekedi est signataire. D'autres précisions avec vous, Noël Aluzitu Kabambi.
Quelques jours après l'annonce de la décision de la RDC notifiée aux commandants de la force régionale de rapatrier dans leur pays les 3 officiers rwandais affectés au quartier général de cette force, les réactions n'ont pas tardé. Dans son communiqué, le secrétaire général de cette organisation, Peter Mutuku Mutuki, indique que la communauté des pays d'Afrique de l'Est a appris avec inquiétude le 30 janvier dernier l'expulsion vers le Rwanda de 3 officiers déployés par ce pays au quartier général de la force. Conformément aux accords signés par le sommet des chefs d'État à Sharm el-Cheikh en Égypte en novembre 2022, chaque État membre est autorisé à déployer un officier de liaison au quartier général de la force pour soutenir le centre de commandement régional. La RDC, à travers un communiqué de l'État-major général des FRDC du 30 janvier, en a décidé autrement. Elle a décidé l'expulsion des officiers rwandais pour motif sécuritaire. Dans le même communiqué, l'État-major des FRDC précise que le Rwanda venait également de rappeler tous ses officiers qui prenaient part aux différents mécanismes de sécurité en RDC. Selon l'esprit de ce communiqué officiel, la RDC et l'EAC ont convenu que la force et son personnel jureront des privilèges et immunités qui sont spécifiés dans l'accord et le protocole de l'EAC sur la coopération dans les affaires de défense et ce, en vertu de l'article 2 du SOFA. Pour rappel, la RDC avait déjà indiqué qu'elle ne souhaitait pas les troupes du Rwanda dans cette force parce qu'elle accuse Kigali de soutenir le M23.
Noëlla Luzitu Kabambi sur Radio Okapi. Notez que le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pala, est resté injoignable. Autre nouvelle sur Radio Okapi, après avoir été écouté par le pape François qui était en mission pastorale ici à Kinshasa, les victimes des atrocités de l'Est espèrent que le séjour du pape en RDC est le début de la fin de la tragédie qui frappe actuellement l'Ituri depuis plus de 2 décennies. Ces victimes l'ont dit hier lors d'un point de presse organisé par la plateforme culturelle de la communauté iturienne de Kinshasa au centenaire protestant. Le récit de Jeff Ngoy.
L'abbé Guy Robert a été attaqué à sa paroisse à Fataki. Il a reçu des coups de machette, notamment à la tête et aux mains. Le coordonnateur de la commission justice et paix de l'Ituri, l'abbé Chrysanthe Djabou, parle au nom des personnes mutilées et plaide pour la paix et le pardon.
Moi, je voudrais que tout le monde soit sensibilisé à la paix. Je ne voudrais pas non plus susciter l'esprit de vengeance. En Ituri, il y a violence. Il y a des mutilations des personnes. Mais j'aimerais que vous sentiez l'ampleur de ce qui se passe là-bas par les témoins que je suis.
Qu'est-ce qui est à la base de cette tragédie? Réponse avec un notable de l'Ituri.
Lorsque les gens prennent des armes lourdes, lorsque un groupe de gens s'organise et tue même des grands officiers de l'armée, ce ne sont pas des communautés. Il n'y a que les gouvernements qui peuvent imposer la paix.
Président de la communauté iturienne de Kinshasa, Félix Kabouise, évoque quelques statistiques.
Les victimes des atrocités de l'Ituri qui ont cours depuis fin 2017, ce sont près de 20 000 tués, plus de 2 millions de déplacés disséminés dans plus de 60 camps, plus de 500 000 réfugiés dans les pays voisins, une terrible catastrophe humanitaire dont les victimes peinent à être prises en charge.
Après leur rencontre avec le pape, les survivants des atrocités de l'Ituri ont été instruits par l'Église de ne plus s'exposer dans les médias.
On enchaîne avec le Kwilu où plus de 20 déplacés qui ont fui récemment les atrocités dans les territoires de Kwamout au Maïndombe sont morts à Bandunduville où ils avaient été accueillis au mois d'août dernier. C'est suite notamment au manque de soins médicaux essentiels et à la sous-alimentation. Annonce faite par le chef coutumier Teke Eyaka qui était conduit par le chef Soukou au site de déplacés à Bandunduville. Cette délégation avait été dépêchée par le président Félix Tshisekedi pour une mission de pacification à Kwamout, à Bandunduville, Irène Boma.
Dans un mémorandum lu jeudi devant cette délégation des chefs traditionnels et des membres du gouvernement provincial du Kwilu au site d'hébergement de Malebo à Bandundu, ces déplacés ont dit n'avoir reçu aucune assistance de la part du gouvernement central depuis les 4 mois passés dans ces sites. Au moins 29 personnes sont décédées à la suite des conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivent dans ces lieux de refuge, ont-ils déploré dans les mêmes mémos.
4 mois déjà en assisté à Malebo.
Ça fait 4 mois que nous sommes ici. Nous n'avons reçu aucune assistance. Pas de nourriture, pas de soins appropriés. Nous souffrons de la malnutrition. Les gens meurent de faim. Nous avons déjà enregistré 29 cas de décès ici. Nos maisons ont été incendiées, tous les biens brûlés et d'autres pillés. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, de nous donner des moyens financiers qui nous permettront de rentrer dans nos villages respectifs. Notez que lors de cette visite, le chef de la délégation, le roi Minikongo, Fabrice Kavadjoko, a émis le vœu de bien vouloir faciliter le retour de certains déplacés en provenance de villages situés le long de la RN17 en les transportant à bord de plus de 10 véhicules mis à la disposition de sa délégation pour la mission de pacification. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, le docteur Diawara, médecin de l'Organisation mondiale de la santé, qui avait été enlevé le 23 janvier dernier à Menaka alors qu'il circulait en voiture, a été libéré ce vendredi matin à Gao, une autre grande ville au nord du pays. L'information a été confirmée par des sources locales et onusiennes. Aucun détail à ce stade sur les conditions de sa libération. La zone est fréquentée par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, mais une autre source sécuritaire locale évoque plutôt un réseau crapuleux. L'Union européenne a salué ce vendredi les efforts considérables de l'Ukraine dans le cadre de sa candidature à l'adhésion de l'Union européenne, sans annoncer toutefois de calendrier, alors que Kiev souhaite accélérer le processus. L'Union européenne a reconnu les efforts considérables de l'Ukraine déployés ces derniers mois en vue d'atteindre les objectifs sous-tendant son statut de candidat à l'adhésion, ont indiqué dans un communiqué le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l'issue d'un sommet tenu à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
L'invité.
Notre invité, c'est l'aumônier de jeunes de l'Église catholique auprès de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Après la rencontre avec le pape François ici à Kinshasa, Père Jean-Marie Roubakaré appelle les jeunes à rejeter en bloc les antivaleurs. Il s'entretient avec Paul Matendo.
Père Jean-Marie Roubakaré, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le pape François vient de s'adresser aux jeunes. Comment réagissez-vous à ce message?
Bien, le message du Saint-Père a été un message très piquant, très réaliste et très encourageant aussi. Quand il nous a parlé de cinq doigts et la valeur de cinq doigts dans la vie de l'homme, j'ai compris que l'essentiel c'est d'être unis, soudés et réconciliés aussi, sans oublier la force de la prière. Sans oublier aussi l'acceptation de tout un chacun. Sans oublier aussi que l'union fait la force.
Le Saint-Père a aussi insisté sur la lutte contre la corruption en RDC. Comment pensez-vous encadrer les jeunes pour éradiquer ces phénomènes?
Bien, au niveau de l'aumônerie nationale des jeunes, nous avons déjà des thèmes sur la lutte contre les antivaleurs. Il nous a parlé aujourd'hui de la corruption d'une façon forte. Il parlait de la corruption et de l'honnêteté. On ne peut jamais être honnête si on est corrompu. Si on est corrompu, on n'est pas sur la voie de Dieu. Voilà les mots qu'il a dit. Et moi, je crois qu'au niveau de la jeunesse, il faut que nous leur présentions la réalité de notre pays, les situations de corruption qu'eux-mêmes connaissent, qu'ils peuvent aussi décrire, et à la fin dire, faisons l'autocritique. Et c'est à base de l'autocritique qu'eux vont dire « je renonce à ceci ou à cela ».
Quels sont les défis majeurs auxquels font face les jeunes Congolais?
Et les grands défis, c'est d'abord, c'est vrai, le manque de respect de la vie, le manque de respect des dieux et le manque de respect de la famille, pas tous, mais certains. Et alors, face à ces trois manques-là, ma force est laquelle? À sensibiliser les aumôniers diocésains des jeunes afin qu'ils prennent en considération la situation de nos jeunes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. Elle est déjà l'aujourd'hui. En tant qu'aujourd'hui, nous devons lutter contre les antivaleurs, entre autres la corruption. Ça commence par des petits moments où un jeune peut se dire « je te donne un beignet pour que tu puisses me faire passer la porte ». C'est déjà un mauvais signe. Ayant volé des petites choses, on va voler des plus grandes choses aussi. C'est ça. Donc, des petits signes qui peuvent les sensibiliser à leur niveau, à leur situation, à quitter ce milieu-là. Et là, j'ai déjà mes 5 modules de formation contre les antivaleurs. Et il y a un module sur la corruption.
Vous parlez des modules. De quoi s'agit-il exactement ?
Bien, le premier module, c'est le respect de la vie.
C'est-à-dire ?
Que les jeunes sachent que sa vie est sacrée, qu'il ne peut pas se détruire lui-même, il ne peut pas détruire la vie de l'autre. Deuxième module, le respect de la famille. Nous provenons d'une famille. Si on ne respecte pas la famille, on ne respectera jamais d'autres personnes. Le troisième module, c'est le respect de l'autre, celui qui n'est pas de ma famille. N'étant pas de ma famille, je dois le respecter et savoir qu'il a des valeurs et des antivaleurs aussi, ou bien des qualités, mais ce qui n'est pas qualité, et je dois l'accepter tel qu'il est. Et le quatrième module maintenant parle un peu du patriotisme. Je dois aimer mon pays, je dois lutter contre ceux qui peuvent nuire à mon pays. Et le cinquième module qui est le sommet, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà un peu mes 5 modules pour lesquels je dois former la jeunesse pendant ce temps.
Nous avons aussi entendu les jeunes demander au Saint-Père d'insister auprès des autorités congolaises afin de combattre le chômage. Votre réaction ?
Bien, c'est vrai, la jeunesse est en chômage. Comment faire le travail ? C'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Qu'on n'attende pas de dire « j'ai l'honneur, j'ai l'honneur ». Mais avec ma connaissance, nous mettons ensemble en tant que 3-4 jeunes, qu'est-ce que nous allons créer comme activité qui va nous rapporter de l'argent ? C'est ça l'entrepreneuriat que nous devons sauvegarder.
Père Jean-Marie Roubakaré, je vous remercie.
Merci beaucoup, chers journalistes.
C'était l'invité de Radio Capi, l'aumônier de jeunes de l'Église catholique auprès de la Cinco. L'abbé Jean-Marie Roubakaré était interviewé par Paul Matendo et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Martin Sebou Djangwe et à Noël Alouzi Tukabambi qui m'ont accompagné. Janoma Matwaki, c'est à vous.